Bonjour, au micro Idrissa Seydoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Plus d'un demi-million de morts et 10 millions de cas de coronavirus depuis décembre 2019, alors que le virus continue de faire des ravages aux États-Unis et semble redémarrer en Chine. Selon un comptage de l'AFP hier, le nombre des décès recensés dans le monde a doublé en un peu moins de 2 mois et 50 000 décès supplémentaires ont été enregistrés ces 10 derniers jours. L'Europe est le continent qui compte le plus de décès, suivi par la zone États-Unis-Canada, l'Amérique latine et les Caraïbes, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Océanie. La Chine a confiné dimanche près d'un demi-million de personnes près de Pékin, touchées depuis mi-juin par un rebond de COVID-19 que les autorités décrivent comme grave et complexe. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de décès, 125 747, que de cas officiellement recensés, 2 539 544. Bien que le nombre de décès quotidiens ait légèrement diminué en juin par rapport au mois précédent, la contagion progresse dans 30 des 50 États américains, notamment dans les plus grands et les plus peuplés du sud et de l'ouest du pays, la Californie, le Texas et la Floride. Certains ont dû faire une pause dans le processus de déconfinement. Le gouverneur de la Californie a ainsi ordonné dimanche la fermeture des bars de Los Angeles et de 6 autres comtés de cet État de la côte ouest qui connaît un rebond de la pandémie. De plus en plus de voix, dont des républicaines, exhortent le président américain Donald Trump à porter un masque pour donner l'exemple face à l'épidémie de COVID-19. En Afrique, toutes les frontières de l'Algérie vont rester fermées jusqu'à la fin de la pandémie de COVID-19, a annoncé hier soir le président Abdelmadjid Tebboune. Face à une recrudescence des cas de contamination due, selon les autorités, au non-respect des règles de prévention. Au Soudan, les forces de sécurité ont arrêté 122 mercenaires soudanais qui se rendaient en Libye voisine pour combattre dans ce pays en conflit, a annoncé hier l'agence officielle Sunna à Khartoum. Le GNA, basé à Tripoli et reconnu par l'ONU, accuse les parties soudanaises d'envoyer des mercenaires combattre auprès de son rival, le maréchal Khalifa Haftar, ce que les autorités soudanaises nient. Ici aux États-Unis, la Chambre des représentants et le Sénat du Mississippi ont voté hier le retrait du drapeau de cet État du Sud, d'un symbole confédéré qui rappelle la période de l'esclavage. Le Mississippi est le dernier État américain à arborer sur son drapeau l'emblème de la Confédération. Une vague de manifestations antiracistes à travers les États-Unis a ravivé la controverse sur la persistance des symboles évoquant l'esclavage. Par ailleurs, le président Donald Trump a partagé hier, avant de la supprimer, une vidéo d'un affrontement entre plusieurs de ses soutiens et de ses opposants, montrant un homme hurler « White Power », cri de ralliement des tenants de la suprématie blanche. Cette vidéo d'un utilisateur Twitter, accompagnée du message « Merci aux super habitants des villages », a été apparemment filmé dans une résidence privée pour retraités en Floride appelée Villages. Le président Trump est un grand fan des Villages. Il n'a pas entendu le message dans cette vidéo. Ce qu'il a vu, c'est un enthousiasme incroyable de la part de ses soutiens, a réagi un porte-parole de la Maison-Blanche, Jad Deer. La Française Assa Traoré a reçu hier le prix BET Global Good et est la figure emblématique de la lutte contre les violences policières et le racisme depuis la mort de son frère Adama, tué selon elle par les forces de l'ordre françaises. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC. La suite de nos informations. Au Malawi, prestation de serment hier du président élu Lazarus Chakwera, vainqueur de l'élection rejouée la semaine dernière et qui a ramené au pouvoir l'ex-parti unique après 26 ans, il a obtenu son succès électoral en prônant la rupture avec le régime de son prédécesseur, Eric Manirakiza.
Je jure solennellement de remplir les fonctions de président de la République du Malawi et de préserver et défendre la Constitution, a déclaré Lazarus Chakwera lors d'une cérémonie à Lilongwe. Il a remercié ses concitoyens de lui avoir fait cet honneur, se disant empli d'une joie indescriptible. C'est un honneur forgé au creuset de votre désir et de votre aspiration au changement, a ajouté M. Chakwera. Depuis la place de la liberté de Lilongwe, il s'est engagé à rétablir la confiance dans la possibilité d'avoir un gouvernement au service de la population, mais aussi à être le président de tous les Malawites, y compris de ceux qui n'ont pas voté pour lui. Le nouveau président a fait campagne en dénonçant l'échec économique et la corruption du régime déchu. Le chef de l'État sortant, Peter Mutharika, ne s'est pas exprimé depuis la proclamation de sa défaite, mais quelques heures auparavant, il avait dénoncé des irrégularités lors du vote. Le nouveau président Lazarus Chakwera dirige depuis 2013 le Parti du Congrès du Malawi, qui a dirigé le pays de 1964 à 1994 lors du règne de Hastings Banda. Depuis l'avènement de la démocratie, son mouvement a systématiquement perdu tous les scrutins nationaux. Son succès vient mettre un terme à cette série à la troisième tentative.
En République démocratique du Congo, le Premier ministre Sylvestre Ilunga a fait part de son indignation au président Félix Tshisekedi après, je cite, « la brève arrestation arbitraire samedi soir du ministre de la Justice ». Nouvelle crise au sein de la coalition au pouvoir, Nani Talani.
D'ordinaire très discret, le Premier ministre Sylvestre Ilunga est issu du même camp que l'ex-président Joseph Kabila, qui gouverne en coalition avec son successeur Félix Tshisekedi. La majorité des 66 ministres vient du FCC, le parti de M. Kabila, majoritaire au Parlement. C'est le cas du ministre de la Justice, Célestin Tundaya Kasembe, relâché après plusieurs heures d'audition au parquet. Des membres du gouvernement ont exprimé leur indignation pour l'humiliation subie par leurs collègues et condamnent cette arrestation arbitraire en violation des règles élémentaires de l'état de droit, selon la déclaration des services du Premier ministre datée de samedi. Le Premier ministre demande au chef de l'État de saisir le Conseil supérieur de la magistrature pour l'ouverture d'une action disciplinaire envers les magistrats qui ont participé à cette arrestation. Il lui demande aussi de garantir le secret des délibérations du Conseil des ministres. L'arrestation a eu lieu au lendemain d'un incident en Conseil des ministres. Le président Tshisekedi a été furieux d'apprendre que son garde des Sceaux avait transmis au Parlement les observations du gouvernement sur trois propositions de loi très controversées, sans consulter ni le président ni l'exécutif.
Ici, aux États-Unis, le président Donald Trump a assuré hier ne pas avoir été briefé sur de possibles primes versées par Moscou à des insurgés afghans pour tuer des soldats occidentaux en Afghanistan, contrairement à ce qu'affirment des informations de presse. Les détails avec Michel Joseph.
Personne ne m'a briefé ou n'a briefé le vice-président Mike Pence ou le chef de cabinet Mark Meadows sur les soi-disant attaques sur nos troupes en Afghanistan par les Russes, a assuré le président américain dans un tweet matinal. Tout le monde le nie et il n'y a pas eu beaucoup d'attaques contre nous, a-t-il ajouté, en s'en prenant pour la énième fois aux médias bidons. Le New York Times, suivi ensuite par le Washington Post et le Wall Street Journal, a rapporté que des agents russes avaient discrètement distribué de l'argent à des combattants proches des talibans pour qu'ils tuent des soldats américains ou de l'OTAN en Afghanistan. Ces informations ont été transmises au président Trump et le Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche en a discuté à la fin mars sans qu'aucune réaction ne soit décidée, ont ajouté ces quotidiens en citant des sources anonymes au sein du renseignement américain. La Russie et les talibans ont démenti en bloc ces informations. La Maison-Blanche a pour sa part nié que le président ou le vice-président ait été tenu informé De même, le nouveau directeur du renseignement national, John Ratcliffe, a démenti ces informations. La chef des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi, a relevé que le président veut ignorer toutes les allégations contre la Russie. Il lèche les bottes de Vladimir Poutine de toutes les manières possibles, a-t-elle dit, en lui reprochant de s'intéresser aujourd'hui davantage à son image qu'à creuser le fond de l'affaire.
La Minute Éco, Nanit Talani.
La communauté internationale a promis une aide de 1,8 milliard de dollars au Soudan, menacé par une grave crise économique. Une partie de ces fonds ira à la lutte contre le Covid-19 et 500 millions de dollars seront affectés à un programme d'aide aux familles pauvres. Après une récession en 2019 de moins de 2,5%, le Soudan devrait enregistrer une nouvelle contraction de son économie de moins de 8% cette année, selon le FMI. En Tanzanie, un petit mineur, Sanyu Laiser, a découvert deux des plus grandes pierres précieuses de Tanzanie jamais trouvées dans le pays. Elles pèsent 9,27 et 5,1 kg et ont été vendues pour environ 3,3 millions de dollars au gouvernement qui veut les déposer au musée national. Ces pierres, convoitées pour leur remarquable éclat bleu violet, ne se trouvent que dans le nord de la Tanzanie. M. Leiser veut utiliser l'argent pour développer sa communauté, construire un centre commercial à Arusha et une école. Pour terminer, en Afrique du Sud, le taux de chômage a atteint son plus haut niveau historique à 30,1% de la population active au premier trimestre, plusieurs entreprises ayant annoncé des licenciements. Selon la Chambre de commerce, le taux de chômage pourrait atteindre 50% à cause de la pandémie. Le déficit budgétaire va aussi se creuser en raison d'une hausse des dépenses liées à la lutte contre le Covid-19 et estimée à 1,1 milliard d'euros.
Les sports à présent avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines risque d'être reportée.
Oui, initialement prévue en novembre-décembre au Congo-Brazzaville, cette compétition n'aura peut-être pas lieu en 2020. Les qualifications n'ont toujours pas débuté. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football, qui se réunit demain mardi, abordera néanmoins le sujet.
Pour rester sur le continent, le Zamalek du Caire a annoncé dans un communiqué qu'il ne reprendra pas le championnat égyptien.
Le club présidé par Mortada Mansour a décidé de ne pas poursuivre le championnat cette saison en raison de la pandémie de coronavirus. Plusieurs clubs, dont Ismaili et Al-Masri, ont aussi publiquement dénoncé la décision de reprendre la saison. Après la Tunisie et le Maroc, l'Égypte aussi va recommencer son championnat à partir du 25 juillet prochain.
En Europe, Salzbourg, sacré champion d'Autriche.
Tout à fait. Le Red Bull, en s'imposant 3-0 face au FC Arbeg, a assuré un 7e titre consécutif de champion lors de la 30e journée du championnat. À 2 journées de la fin, Salzbourg, déjà vainqueur de la Coupe nationale, compte 11 points d'avance sur Linz. Premier poursuivant, défait 1-0 par Wolfsburg.
En Espagne, on jouait la 32e journée.
Et le Real Madrid a assuré l'essentiel en ramenant la victoire de son déplacement sur le terrain de l'Espagnol de Barcelone. Ce 5e succès consécutif lui permet de conforter sa première place avec soit 11 points, soit 2 longueurs d'avance sur le Barça contraint au nul par le Celta Vigo. Le club merengue fait un pas de plus vers le titre avant une prochaine journée qui le verra jouer contre Getafe pendant que le FC Barcelone recevra l'Atlético Madrid.
Élisée, la Coupe en Angleterre. Manchester City, vainqueur de Newcastle, jouera Arsenal en demi.
Exactement Idrissa, les Citizens sont venus à bout hier des Magpies 2-0 et affronteront Arsenal en demi-finale le 18 juillet prochain à Wembley. La seconde demi-finale se jouera le lendemain toujours à Wembley et ce sera entre Manchester United et Chelsea. La finale de cette FA Cup aura lieu le 1er août prochain.
Bonjour, c'est Yacouba Ouidraougo. Tout le lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leur éclairage. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sédoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Élection présidentielle de décembre prochain au Niger. Le chef de la junte militaire de 2010 se porte candidat. Le général Salou Djibo a été investi ce week-end par les militants de la formation politique qu'il a créée. Les détails avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
J'ai décidé d'être candidat aux élections présidentielles à venir, Inch'Allah.
Le général Salou Djibo devient ainsi le cinquième candidat investi pour la présidentielle de décembre prochain. L'homme du 18 février 2010 s'étant débarrassé de ses treillis depuis plus d'une année, décide de revenir sur la scène politique avec beaucoup plus d'engagement.
Je m'engage sur l'honneur et devant le peuple nigérien souverain de faire la politique autrement dans les jours à venir et dans la conduite de ma campagne électorale. Jusqu'à la victoire, Inch'Allah, je m'engage très concrètement à rassembler autour de moi tous les Nigériens épris de paix, de justice et de progrès au-delà des considérations partisanes et sans distinction aucune. Si les Nigériens me font confiance en m'élisant président de la République en 2021, je m'engage à faire entreprendre une grande réforme constitutionnelle pour restaurer l'autorité de l'État. Je m'engage à gouverner avec humilité, sobriété et responsabilité en donnant toujours le bon exemple.
Pour cette sortie officielle du général Salou, toute la classe politique était présente, notamment des candidats déclarés comme lui à l'élection présidentielle, Mohamed Bazoum du PNDS Taraya, le parti au pouvoir.
Général Djibo Salou, ce que nous connaissons de vous et ce que nous avons apprécié particulièrement, c'est aussi la façon très digne avec laquelle vous vous êtes comporté dans la conduite des affaires de l'État pendant la période de transition que vous vous êtes donné pour mettre notre pays sur le rail de la démocratie.
Les partis politiques de l'opposition y étaient également. Leur parole a été portée à cette cérémonie du parti du général Salou Djibo par Ibrahim Yakoubou.
Au nom de l'opposition, nous sommes venus vous dire que puisque vous êtes dans l'arène et que nous sommes heureux que vous soyez dans l'arène, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous parce que la situation du Niger nécessite que les hommes et les femmes, où qu'ils se trouvent, s'engagent et que nous puissions produire le changement.
À la tête de la junte qui a renversé en 2010 le régime du président Tanja, le général Salou Djibo a organisé des élections qui ont consacré l'arrivée au pouvoir de Issoufou Mahamadou. Espère-t-il un retour de l'ascenseur en se lançant ainsi dans la course à la présidentielle? Pas si sûr, puisque le président Issoufou Mahamadou a ouvertement déclaré soutenir le candidat de son parti, Mohamed Bazoum, pour sa succession. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Cameroun, de jeunes entrepreneurs s'impliquent dans la promotion du Made in Cameroun. Plus de 200 d'entre eux ont exposé à Yaoundé leur savoir-faire dans la transformation de produits locaux. Une foire d'exposition qui avait pour maître mot le patriotisme économique. Une invite à consommer camerounais dans un contexte où la COVID-19 a provoqué un frein aux importations du fait de la fermeture des frontières. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Julta.
L'agroalimentaire, le cosmétique, l'artisanat, les innovations technologiques sont autant de secteurs où les jeunes Camerounais se sont lancés et produisent localement. Certains connaissent des expériences avec succès, à l'instar de Thierry Yamen, promoteur du label Tanti, qui se décline en une vingtaine de produits alimentaires, notamment les céréales infantiles au soja, transformé localement.
Chaque Camerounais devrait se rendre compte que chaque fois qu'il achète un produit importé, il est en train de financer du travail ailleurs.
Yoshua aussi est député et coordonnateur du réseau des parlementaires Espérance Jeunesse, un organe de l'Assemblée nationale qui promeut l'entrepreneuriat des jeunes.
Donc si vous voulez financer le travail de vos enfants, il faut que déjà dans votre façon de faire, dans votre attitude, dans votre mentalité, vous compreniez que chaque fois que vous choisissez un produit local par rapport à un produit importé, vous favorisez l'emploi d'un jeune.
Au Cameroun, une place de choix n'est toujours pas accordée à la valeur ajoutée locale, par exemple dans la commande publique. Les jeunes entrepreneurs, par ailleurs, ont évoqué d'autres obstacles à la promotion du Made in Cameroun. Deux exposants ayant requis l'anonymat témoignent.
Souvent, on a des idées qu'on ne peut pas mettre sur pied, faute de moyens. On a trois composantes. Il y a l'artisanat d'art, l'artisanat de service, l'artisanat de production, qui sont les dédiés, les richesses au Cameroun. Et si l'État met les moyens sur cet artisanat, l'économie du Cameroun va grandir.
Au prix de nombreux efforts, certains jeunes entrepreneurs parviennent cependant à valoriser le label Made in Cameroun. Ils produisent du savon, de l'huile, de table raffinée, des laits de toilette, entre autres. Victorine Nouleux s'est spécialisée dans la conservation alimentaire.
Nous faisons dans la conservation alimentaire, spécialisée dans le séchage des fruits, épices, légumes, infusions, poissons.
Le Cameroun importe d'importantes quantités de denrées, dont les substituts peuvent être produits localement. Une expérience dans laquelle s'est lancée Solange et Sengongono.
Nous avons donc pensé transformer le manioc. S'il manque du blé, est-ce que nous allons cesser de dire?
Le gouvernement, pour sa part, souhaite que la production locale des jeunes s'arrime aux normes internationales. Luc Magloire Mbaga Atangana, ministre du Commerce.
Il faut pouvoir s'installer dans la durée pour ensuite s'imposer. Nous devrons pour cela les uns et les autres, pouvoirs publics et opérateurs économiques, travailler à satisfaire le triptyque disponibilité, accessibilité, attractivité.
À ce jour, une centaine de produits sont labellisés Made in Cameroun, notamment dans l'agroalimentaire, la santé et le cosmétique. Yaoundé, Emmanuel Junta. VOA Afrique.
Au Tchad, les députés ont élevé le général d'armée Idriss Déby Itno à la dignité de maréchal du Tchad. Une distinction qui intervient en marge du vote de la résolution portant édification d'une stèle à la mémoire des soldats martyrs du 23 mars 2020 à Bohoma. André Kotmajingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
C'est une initiative d'un député de l'opposition Ibn Daoud, cinquième vice-président de l'Assemblée nationale, pendant que la plénière examinait la possibilité d'édifier une stèle à Bohoma en mémoire des soldats tués par les éléments de Boko Haram le 23 mars dernier. Si les morts sont honorés et les vivants récompensés, qu'en est-il du président lui-même qui a risqué sa vie? Il lui faut une distinction spéciale, l'a déclaré le député Ibn Daoud dans la salle. La majorité a pris la balle au rebond et propose une résolution séance tenante qui a abouti à un vote portant élévation du général d'armée à la dignité du maréchal du Tchad. Ce n'est pas le goût de tout le monde, ça l'équipe Sabo, député à l'Assemblée nationale.
C'est tout à fait ridicule qu'aujourd'hui encore on parle dans nos pays de maréchal. Si j'étais à sa place, cette distinction-là, je ne l'accepterais pas.
Il a boycotté la séance parce que selon lui, le sujet n'est pas inscrit à l'ordre du jour.
Ils ont fait leur passage en force parce qu'ils ont la majorité à l'Assemblée et c'est comme ça qu'ils ont donc enfoncé cette affaire en dépit d'une des dispositions du règlement intérieur qui dit que tout projet quelconque est déposé dans les boîtes des députés trois jours à l'avance. Je pense tout simplement que c'est l'effet du pouvoir. Le demi-dieu veut peut-être devenir dieu.
Le président du groupe parlementaire du parti au pouvoir, Kolotou Tchaïmi, se réjouit pour cette distinction.
Le chef de l'État, il est le seul président en exercice qui a pris les armes lui-même, combattre au même titre qu'un simple soldat. C'est pour la première fois que l'Assemblée nationale du Tchad accorde à un chef d'État en exercice une telle distinction. Il y avait eu un vote. Tout le monde était unanime, l'opposition, la majorité.
Pour Béral Mbaïkoubou, député de l'opposition, commission, la majorité a joué sur la résolution votée par les députés en ce temps de crise sanitaire. Cette résolution dispose qu'en cas de session, ce sont les présidents des groupes parlementaires qui siègent et du coup, lorsqu'ils votent pour, contre ou en abstention, le décompte est fait pour tous les membres du groupe. C'est le cas de cette résolution portant élévation du chef de l'État à la dignité du maréchal.
On ne peut pas prendre une massue pour écraser une fourmi et se féliciter d'avoir été héroïque. Pour moi, c'est un événement scandaleux. Le président Déby, colonel de 38 ans, avait renversé la dictature féroce de Hissène Habré, était beaucoup plus vaillant que le général d'armée Idriss Déby Itno, qui est allé écraser quelques bandits de Boko Haram dans le lac Tchad.
Pour les caciques du parti au pouvoir, cette distinction traduit la volonté de tout le peuple tchadien.
Qui aujourd'hui n'a pas salué la bravoure du chef de l'État sur le terrain?
C'est une forme de décoration, point barre.
Maître Jean-Bernard Padaré, porte-parole du parti au pouvoir et ancien ministre de la Justice.
Est-ce qu'on peut empêcher au peuple tchadien à travers la représentation nationale de dire à son président que nous on est très fiers de vous?
C'est un titre purement honorifique. Il ne restera Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, ni demi-dieu, ni quoi que ce soit.
Certains citoyens estiment que la législature actuelle est illégale et n'a pas qualité d'attribuer le titre de maréchal au président car le mandat de ces mêmes députés est largement dépassé. André Kodumadjingar Ndjamena, pour VOA Afrique,
Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Sénégal, l'actualité est fortement marquée par les problèmes fonciers. La question divise la classe politique et un collectif a même vu le jour pour défendre l'équité dans l'accès aux terres. Dans la région de Dakar, des familles se battent également dans l'anonymat pour retrouver leur terrain. Notre correspondant Seydina Abagay est allé à leur rencontre.
Le 18 décembre 2013, 253 familles perdent leur maison à Gadaï, dans le département de Guédiouaï, dans la banlieue de la région de Dakar. Sur leur terre, un promoteur veut développer un projet immobilier. Après une longue bataille judiciaire, les victimes ont eu gain de cause, mais depuis lors, ils n'ont pas encore été réhabilités, comme l'indique Séni Ndiaye, une des nombreuses mères de famille à avoir perdu son foyer.
Donc, on a démoli nos maisons depuis 2013, il y a de cela 7 ans. Donc, on est allé en justice. On a gagné 3 fois le promoteur en question qui a démoli les maisons. Donc, avec le papier des jugements, normalement, on devait nous rétablir dans nos droits en nous remettant, bien sûr, nos terrains. Donc, chose qui n'a pas été faite.
Face à ce statu quo, les victimes se sont organisées pour faire bouger les choses et depuis, plusieurs actions ont été menées en vain. Ella Joagué, présidente du collectif des victimes de Gadaï, affirme que les populations n'en peuvent plus et qu'elles sont prêtes à tout faire pour retrouver leur terrain.
Franchement, les populations en auront le bol, les victimes en auront le bol, et c'est ça le cri du cœur. Et vraiment, le combat continue, sous nos souffles, sous nos bamelles. Voilà vraiment le slogan, et ça va continuer. Nous allons continuer cette grève à la fin, parce que même si la police s'interpose, cela ne veut pas dire que nous n'allons pas faire cette grève à la fin. Pour le moment, on est en train de soigner nos blessés. Mais nous allons continuer ce combat jusqu'à ce que le site soit régularisé et que les victimes disposent de leur propre bail.
Autre bataille foncière engagée, celle de la préservation du littoral. Dans ce combat, les populations refusent l'implication des politiciens et préfèrent s'organiser pour défendre elles-mêmes le principe d'équité foncière, comme l'indique Michel Mendy, coordonnateur du collectif Arsenou Souf, Arsenou Littoral.
Ce littoral fait partie du domaine public maritime et que ce domaine public maritime est protégé par la loi sur le domaine public maritime. Nous comptons continuer sur cette lancée-là, sensibiliser les populations, nous battre pour que quand on veut s'accaparer du littoral pour une frange de privilégiés au détriment des populations, que ces populations-là puissent dire non. Parce qu'il faut une démocratie foncière au Sénégal, il faut que l'accès à la terre soit égal pour tous, pas un privilège pour Jean au détriment de Paul.
Face aux multiples remous notés dans le domaine foncier ces derniers temps, la direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol a arrêté plusieurs constructions sur des terres relevant du domaine public. Le président Macky Sall a quant à lui décidé de confier la très convoitée assiette foncière de l'aéroport Léopold Sédar Senghor à la caisse des dépôts et consignations pour éviter toute spéculation. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.